Devant toi, Seigneur, je répands mon âme. Devant toi, Seigneur, je répands mon âme. Ô mon Dieu, je suis à toi. Je me confie en toi, conduis-moi dans la voie de la vérité.
Chers amis, fidèles auditeurs, vous êtes à l'écoute de l'émission En sa présence. Émission proposée par le Centre biblique, sous la charge de votre serviteur indigne, Danny Wechai. Nous sommes en train de considérer depuis quelque temps, sur la base de la parole de Dieu, le sujet de la prière et du pardon. La prière et le pardon. La prière est un exercice spirituel permanent pour le croyant. J'allais dire un état d'esprit qui marque toute sa vie. Quand Saul de Tarse s'était converti, eh bien celui que nous connaissons comme l'apôtre Paul était tout de suite caractérisé par l'esprit de prière. Dieu le désigne à Ananias qui devait le rencontrer pour l'aider en disant « Va, car il prie ». C'est dans les Actes des Apôtres au chapitre 9 du verset 11 jusqu'à 12. Mais la vie de prière exige du croyant un état de cœur pur car le Dieu auquel il s'adresse est un Père saint. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Puis, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Voilà comment le Seigneur Jésus nous a appris à prier. Le pardon est une des exigences très sérieuses et très pressantes de la sainteté de notre Dieu et notre Père. Le Seigneur Jésus nous l'ordonne particulièrement en relation avec la prière. Nous lisons dans l'évangile de Marc au chapitre 11, au verset 25, ceci. Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. C'est des paroles que nous voyons dans les deux versets, le verset 25 et le verset 26 de ce chapitre 11e de l'évangile de Marc. Le Seigneur Jésus dit clairement et précisément ceci. Et lorsque vous êtes debout en prière, la prière est le baromètre de l'état spirituel de quelqu'un. À supposer que tu aies quelque chose dans ton cœur contre un frère ou une sœur, tu le sauras certainement au moment de la prière, puisque soit tu ne peux pas tout simplement prier pour lui ou pour elle, soit même en priant pour lui ou pour elle, tu ne te sentiras pas à l'aise. Tu ne peux pas dire ni demander à Dieu des choses positives en sa faveur. Au contraire, tu feras parfois des prières d'accusation contre cette personne. De plus, le Seigneur Jésus dit « Lorsque vous êtes debout, debout en prière ». L'expression « debout » est très symbolique. « Debout en prière » pourrait vouloir dire « valablement en prière ». Convenablement en prière, dignement en prière et non indignement, spirituellement en prière et non charnellement. Rappelez-vous la parabole du pharisien et du péager, tous les deux en prière. Il est dit du pharisien que, debout, il priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont accapareurs, injuste, adultère, ou même comme ce péager. » C'est dans Luc au chapitre 18, versets 9 jusqu'à 14. Il était physiquement debout, religieusement, formellement, en prière, mais spirituellement, il était par terre. Il priait, étant déjà tombé, à cause de son orgueil. N'es-tu pas comme ce pharisien, cher frère, chère sœur, cher auditeur? Le Seigneur dit d'autre part, et lorsque vous êtes debout en prière, il dit lorsque et non si. Car la prière n'est pas une option pour un vrai croyant, mais un principe de vie. Et en même temps aussi une pratique constante, une habitude perpétuelle. Le ressentiment et la rancune dans le cœur du croyant ôtent du tranchant à l'esprit de prière. Les conflits interpersonnels affaiblissent la vie de prière. Nous devons y faire très attention. Tout celui ou celle qui tient à la vie de prière et au ministère de l'intercession devrait être, sans aucun doute, enclin à pardonner. Nous avons vu, la fois passée, quelques raisons que beaucoup de gens avancent pour ne pas pardonner ou pour tarder à pardonner. Entre autres, premièrement, il faut que la personne qui m'a offensé se repente ou reconnaisse son péché, disent-ils. La deuxième raison, c'est la crainte d'être l'objet d'une exploitation de la part de mon offenseur qui risque de continuer à faire la même chose vis-à-vis de moi. Et la troisième raison que nous avons vue pour éviter cette exploitation, la troisième raison, c'est qu'ils disent « il faut que j'obtienne des garanties de la personne qui m'a offensé qu'elle ne répétera plus les mêmes choses ou les mêmes offenses vis-à-vis de moi ». Nous avons conclu que ce sont certes de vraies raisons sur le plan humain, mais pas forcément sur le plan biblique et spirituel. Aujourd'hui, nous continuons à examiner d'autres raisons qui suivent et qui sont des prétextes pour éviter de pardonner. Alors j'en donne une quatrième. Certains disent « mais ce n'est pas juste de pardonner, car les gens doivent payer pour le mal qu'ils ont fait ». Cette façon de penser dénote d'une mauvaise conception du pardon. Le pardon n'est pas fondé sur la justice, mais sur la grâce et la miséricorde. Prenons l'exemple d'un prisonnier qui a purgé toute sa peine en prison. S'il passe tous les 5 ans de sa condamnation, eh bien, il a droit désormais à la libération. Sa sortie de prison est une chose juste. Il n'a pas besoin d'être pardonné pour devenir libre. Tu as contracté une dette chez quelqu'un qui te poursuit. Une fois que tu as réglé toute sa dette, ton créancier n'a plus à te pardonner parce que tu t'es acquitté de ta dette. Le pardon ne se mérite pas. Écoutez ce qui nous est dit par le Seigneur lui-même dans la parabole du serviteur impitoyable dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18 au verset 33. Je lis. « Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ? Pardonner, c'est avoir pitié. » Une cinquième raison, eh bien, d'autres disent « pardonner, c'est oublier, étant donné que je ne peux pas oublier ce qu'il m'a fait, donc je ne peux pas lui pardonner. Le pardon ne signifie pas perte de mémoire, s'il vous plaît, ni absence de souvenir. Quelqu'un t'a blessé, par exemple, sur ton corps. Qu'est-ce qui se passera? Eh bien, chaque fois que tu verras la cicatrice de cette plaie, tu te souviendras aussi de ce qu'on t'a fait. Toutefois, qu'est-ce qui a changé? C'est ton désir de te venger contre celui qui t'a blessé. Ce qui a changé, c'est ta soif de revendication personnelle en vue de te faire justice. Sixième raison. Pour certains, ils ne peuvent tout simplement pas pardonner tant qu'ils n'en ressentent pas le besoin. Ils disent « Oui, je pardonnerai certainement, mais j'attends que j'en ressente le besoin, car ce serait hypocrite et non honnête de pardonner à ceux qui nous ont offensés lorsque, au fond de nous-mêmes, nous n'avons pas envie. » Cette façon de voir les choses est une erreur monumentale, selon la Bible. Si nous attendons d'avoir le désir de pardonner, hélas, nous ne le ferons sans doute jamais, jamais. Pardonner est un acte d'obéissance à un ordre net et clair du Seigneur. Il a dit, « Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Si Jésus-Christ est votre Seigneur et Maître, pardonnez. Pardonnez. » chers frères, et armez-vous toujours de la pensée de pardon. La fois dernière, vous savez ce qui s'est passé? Après avoir donné le message sur le pardon, je suis sorti pour aller dans le véhicule. Et c'est alors que j'ai trouvé le véhicule endommagé. Des malfaiteurs ont brisé les vitres et volé des objets qui étaient dedans. J'ai compris que c'était la réponse du diable contre moi à cause de ce message. Mais le Seigneur éprouvait-il mon cœur en relation avec la parole dont je suis porteur? De toute manière, je lui en ai rendu grâce et j'ai aussi automatiquement pardonné à ces malfaiteurs. Qu'arrive-t-il quand on ne pardonne pas? C'est l'amertume, le ressentiment et la rancune qui remplissent le cœur et empoisonnent les sentiments. Alors on finit par devenir dur de caractère et impitoyable. Les prières seront bloquées, comme le dit l'apôtre Pierre, dans le cas d'un couple. C'est dans 1 Pierre au chapitre 3 au verset 7. Il exhorte les maris à vivre avec leurs épouses de manière à ce que rien, dit-il, rien ne fasse obstacle à vos prières. Il y a de couples qui se lamentent disant « Mais rien ne marche, oh, on nous a ensorcelés !» Mais qui vous a ensorcelés? Qui? C'est vous-même, par votre manque de pardon mutuel. La troisième raison, la troisième chose plutôt qui arrive lorsque nous ne pardonnons pas, c'est l'expérimentation des choses dures, la dureté de la vie qu'on va rencontrer. Dans la parabole du serviteur impitoyable que nous avons considéré dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18, le maître de ce serviteur impitoyable, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Cela est dit au verset 34. Il le livra au bourreau. Tu ne veux pas pardonner. Mais pour quelle raison? Pour quelle raison tardes-tu à pardonner? On a vu un éventail de raisons qui ne tiennent pas debout au regard de la parole de Dieu. Tu ne veux pas pardonner? Hélas, tu seras livré au bourreau du chômage qui vont bloquer ton emploi, au bourreau de l'échec qui vont bloquer ta réussite aux études, au bourreau qui vont bloquer tes ressources financières. Ils vont perturber ton commerce et tes affaires. Les bourreaux vont miner ta santé. Et qu'est-ce qu'on va entendre? Ah, estomac! Ah, gastrite! Oh, insomnie! Pourquoi? Parce que tu ne pardonnes pas. Rappelle-toi que quand Étienne, le premier martyr de l'Église, s'écria « Seigneur, ne leur impute pas ce péché !» C'est alors, oui, comme le dit l'Écriture, qu'il s'endormit. Oui, parce que l'Écriture dit « Après avoir dit cela, il s'endormit. » C'est à la fin du chapitre 7 du livre des Actes des Apôtres. Qu'arrive-t-il quand nous pardonnons? On est sentimentalement parlant libéré. Le pardon est une puissance qui libère. C'est le titre d'un livre, d'un très bon livre, écrit par Samuel Atsakordian de l'œuvre missionnaire Compassion. Et vous pouvez vous procurer ce livre, qui vous aidera certainement dans ce domaine du pardon. On rencontre la miséricorde de Dieu. Deuxièmement, quand on pardonne. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi, dit le Seigneur dans Matthieu au chapitre 6, verset 14. Il y aura la prospérité et l'épanouissement sous une forme ou l'autre. Rappelez-vous l'exemple de Joseph. Joseph a pardonné à ses frères qu'il avait vendus et il prospéra. Quand Joseph a pardonné à ses frères, qui d'ailleurs doutaient de ce pardon, on voit bien quelles étaient ses attitudes. On voit que, dans tous les cas, il cherchait à leur faire du bien. Voilà le pardon, le vrai pardon. Comment pardonner? Lisons dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, verset 32, version Darby. Mais soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu aussi en Christ vous a pardonné. Comment pardonner? Eh bien, comme Dieu aussi en Christ nous a pardonné. Dieu nous a pardonné des choses impardonnables. Il nous regarde en Christ comme si nous n'avons jamais, jamais rien fait de mal contre lui. Comment pardonner? Eh bien, retournons à la parabole du serviteur impitoyable dans Matthieu chapitre 18, verset 35. Il est écrit ceci. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. De tout son cœur, c'est-à-dire sans réserve et pleinement. Il est question avant tout de l'attitude du cœur, de la réalité intérieure. Oui, le pardon octroyé au fond de moi-même. Ce pardon-là n'est pas conditionné par quoi que ce soit que doit faire mon frère ou ma sœur qui m'a offensé. C'est un pardon libre qui ne peut être octroyé que par une personne véritablement spirituelle. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, répondant à la question de Pierre de savoir combien de fois il faut pardonner à celui qui a péché contre toi, lui dit ceci. Je ne t'ai dit pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Ce n'est qu'après le pardon du cœur qu'on en arrive au pardon relationnel. Le pardon relationnel. On va lire pour cela dans l'évangile de Luc au chapitre 17, versets 3 à 5. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, réprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il pêche contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. La repentance de celui qui t'a offensé est nécessaire ici pour ce pardon relationnel, sans lequel la réconciliation pratique est difficile. Chers frères et chères sœurs, nous devons faire un effort pour normaliser nos relations fraternelles, pour vivre entre nous dans la paix du Seigneur. Le fruit de la justice est sémé dans la paix par des artisans de paix. C'est une ferme affirmation que Jacques fait dans son épître au chapitre 3, verset 18. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils des dieux. Soutient de son côté Matthieu, dans son évangile, au chapitre 5, verset 9. La paix par le pardon du cœur, ensuite le pardon relationnel, et cela autant de fois que nécessaire. C'est humainement difficile, c'est vrai. Raison pour laquelle, dans Luc, au chapitre 17, verset 5, les disciples ont immédiatement demandé au Seigneur de leur augmenter la foi. La foi ici s'entend aussi et particulièrement comme une bonne mesure de spiritualité qui permet d'ôter la montagne, de déplacer la montagne de la haine et de la rancune qui nous empêche de pardonner. J'étais à Goma. Il y a ce volcan de Nyiragongo qui est là et qui vomit périodiquement ses laves. Mais de nos jours, on entend beaucoup de gens qui prétendent avoir telle foi qu'ils peuvent déplacer les montagnes. Je voudrais bien qu'à Goma, de telles personnes se rendent et mettent fin à l'existence du Nyiragongo. Parce que bon, c'est un danger permanent pour la ville de Goma. Ah oui, ils peuvent déplacer Nyiragongo, mais ils ne peuvent pas pardonner à ceux qui leur font du mal. C'est une absurdité. Voilà la véritable montagne, la haine, la rancune. Si nous avons une grande foi, eh bien, si nous avons une bonne dose de spiritualité, nous serons rendus capables aussi de pardonner. Je voudrais terminer ce message, chers frères et sœurs, en vous demandant, comme les apôtres avaient demandé au Seigneur, de nous courber dans la prière. Oui, courbons nos têtes et demandons au Seigneur vraiment de nous aider. Si vous logez de la rancune, comme Jephté qui réagit vigoureusement et de manière haineuse vis-à-vis des habitants de Galate qui vinrent lui demander de l'aide. Vous savez que Jephté était un fils d'une prostituée et que ses demi-frères l'ont chassé de la maison de leur père. Et Jephté avait logé de l'amertume. Nous pouvons donc sonder nos cœurs et dire, mais Seigneur, j'ai de l'amertume, j'ai de la haine contre tel ou tel frère. Aide-moi aujourd'hui, Seigneur, à sortir de cette haine et à pardonner. Et Dieu, dans sa grâce, vous aidera. Vous normaliserez vos relations avec les frères et sœurs, avec vos ennemis, et vous serez un artisan de paix, et vous allez être aussi un agent qui œuvre pour la réconciliation. Et ainsi, vous pourrez être un bon intercesseur. Et Dieu, dans sa grâce, exaucera vos prières. Dieu de paix, Dieu d'amour, toi qui ne veux pas la mort du pécheur, mais qui veux que chacun se répande et soit sauvé. Toi qui veux l'unité, toi qui veux la communion parmi tes enfants, viens travailler, viens détruire l'œuvre que Satan a accompli dans les cœurs, une œuvre de destruction de relations. Que tu viennes, Seigneur, par la puissance de ton esprit, tu viennes détruire au nom de Jésus-Christ les œuvres du diable, car il est écrit, le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Qu'il en soit ainsi au nom du Seigneur Jésus et pour ta gloire. Amen. Avez-vous besoin de ce message ou d'un simple contact? Eh bien, vous pouvez appeler votre serviteur Danny Wechai. Que Dieu vous bénisse.
Avec des mots vrais, mon espoir est réel. besoin de toi.